Ribine, le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Ok, voilà. C'est parti. Il y a une scène qui me touche beaucoup de Jean-Luc Godard. Et c'est une scène qui vit avec moi. Et c'est une scène hyper importante.
Par exemple, en 1948, les Israélites marchent dans l'eau, vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau, vers la noyade. Chant et contre-chant. Chant et contre-chant. Le peuple juif rejoint la fiction. Le peuple palestinien le documentaire.
Contre-champ, rencontre avec Ayet Nabaha, documentariste franco-jordano-palestinien, autour des liens qui unissent son histoire familiale et son univers cinématographique. Ayet, ça veut dire « retour » en langue arabe. Et Ayet retourne régulièrement tourner en Cisjordanie ses documentaires. Il est l'auteur, entre autres, des films « Sunbird »,« Against the Wall »,« Why did we plant roses » et « La mémoire de l'oubli ».
Tout d'abord, les documentaires pour moi, c'est une manière de raconter les histoires. Et c'est une décision que j'ai prise en 2003, parce que moi j'ai étudié les fictions à la fac, mais j'ai décidé de un peu changer le chemin. Et j'ai pris le documentaire parce que le documentaire, c'est une forme qui m'a permis de parler des autres. Et c'est assez important. Parler des autres, raconter les histoires des autres aussi. Ça, c'est hyper important pour moi. Et à un moment donné, j'ai dirigé mon travail vers la Palestine en 2005. Et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, il y a 20 ans, j'ai fait des documentaires sur la Palestine pour raconter l'histoire de la Palestine. Et chaque Palestinien a une histoire à raconter.
Et là, je te montre une scène où on était en train de filmer dans un village à Nénine.
Pour qu'on situe bien, ça, c'est des images que tu as filmées, ça, c'est un de tes films.
Oui.
Voilà, qui s'appelle, son titre.
Là, Contre le mur, ouais. Je vais te montrer le film Contre le mur, un passage, un petit passage de Contre le mur. On était en train de tourner avec Jonathan, tranquillement, dans la terre de Palestiniens. Et on voit l'autre côté, on voit le mur, on voit l'autre côté, il y a la colonie. Et à un moment donné, ils ont ouvert le portail.
Ok, oui.
Et t'as 3-4 soldats qui arrivent.
Lama, Makara.
Allez, rentre chez vous. Et Jonathan, il insiste pourquoi ? Bah, il dit que c'est un zone militaire. Mais non, c'est pas un zone militaire. On est chez les Palestiniens.
L'histoire commence comme j'étais à la maison, chez moi. Et là, j'avais un magazine qui racontait l'histoire du premier film palestinien, premier fiction, Retour à Haïfa, qui était fait par Kassem Hawan. Et c'est marrant parce qu'au retour, c'est mon prénom. Parce que moi, mon père m'a donné le nom Retour, base à ce livre qui s'appelle Retour à Haïfa, écrit par Hassan Kanafani, qui était assassiné. C'est un jeune palestinien assassiné à 36 ans à Beyrouth. Et Kassem, plus tard, il décide de faire un film en 82. Et là, le film a fait sa route, bien sûr. Le film Retour à Haïfa a joué un rôle très important dans ma vie professionnelle. Cet article, ça a été fait par un Jordanien. Et moi, j'ai habité en Jordanie à l'époque. Et un Jordanien qui a fait ses études à Moscou. Et je suis allé voir mon père en disant, je vais à Moscou. Pourquoi à Moscou ? Pour faire le cinéma. Et là, mon père, il a rigolé. Il m'a dit, mais c'est trop cher, Moscou. J'ai dit, non, c'est le contraire, c'est communiste, c'est pas très cher. Il m'a dit, non, c'est cher, il n'y a plus de communistes aujourd'hui. Et voilà, je me rappelle cette phrase de mon père, parce que c'était... on était 9 ans après la chute de l'Union soviétique. Et là, il m'a dit, si tu as envie de faire du cinéma... Ou... Il n'était pas d'accord de faire... Voilà. Il m'a dit, tu fais autre chose en Jordanie. Et là, je cherchais en Jordanie, je trouvais les facs qui me convient pour faire les studios de cinéma.
Ça, c'est un film que je tournais aussi sur un photographe japonais assez incroyable qui s'appelle Ruichi Urukawa. Ruichi Urukawa, il a 85 ans aujourd'hui. Et Ruichi arrive en Palestine, Israël, en 1967. Et ça, c'est une scène qu'on a tournée ensemble. Là, c'est juste une scène incroyable.
Et on est où au niveau géographique ?
On est à Belén. Abelain, c'est tous les villages à côté de l'Umur, dans les ouest de Ramallah. Voilà, sa caméra, le masque gaz. On n'a pas même à peine commencé. Et tu vois que des Palestiniens avec des drapeaux. On n'a rien fait encore, ils n'ont rien fait. Et regarde la scène là.
Donc ce bruit là de qui pétarade, c'est les gaz lacrymogènes.
Le gaz lacrymogène partout. Et là, y a... là ils ont peut-être. Ils ont envoyé, je sais pas, 300 bombes d'un coup. Et là, on voit rien. Tu vois les brouillards, là ? Ça, c'est de gaz. Hein. Et là, on n'arrive pas à filmer. On voit rien, en fait. On est en train de tousser. C'est un moment de détresse, franchement. T'as des gens qui tombent, regarde.
Bah, le film que je fais beaucoup pour les télévisions, dans les Moyen-Orient. Et qui c'est des films diffusés sur une chaîne de télévision, sur des plateformes, dans les Moyen-Orient aussi. Et je passe au festival. J'ai jamais passé un film dans un cinéma. Et j'ai fait. Mes films, ils sont sur YouTube, ils sont sur des plusieurs plateformes. Mais c'est pas le but. Pour moi, c'est pas un but de faire un film pour le cinéma. C'est vrai qu'un film. C'est fait pour être dans un cinéma, bien sûr. Mais comme tu passes un film dans un festival, c'est déjà un cinéma. Le plus important pour moi, c'est de faire du film. Et après, on verra plus tard comment on va diffuser ce film, etc. Après, c'est très important de rencontrer les spectateurs après d'un séance de commentaires. Parce que des fois, tu ne peux pas tout raconter parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas sortir de tes personnages. Mais tu peux le raconter après. Et aussi, on peut parler sur l'histoire globale, parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire de la Palestine dans un film de 40 minutes ou 50 minutes. C'est pour ça la discussion après, dans un festival, c'est très important. Après l'écriture, on va filmer. Quand tu filmes, en fait, c'est des surprises. Et tu as des cadeaux aussi. Ça veut dire que tu peux mettre tes caméras quelque part, t'attends quelque chose pour une heure, deux heures, trois heures, ça arrive. Et des fois, t'as des choses qui arrivent dans les cadres. Et ça moi, j'appelle ça des cadeaux. Des fois, t'as des lumières qui arrivent, t'as des personnages qui passent, t'as un objet. Voilà, t'as une composition, en fait. Le tournage, c'est une composition des images avec des personnages, voilà. Et après, on va vers le montage. Le montage, c'est assez dur. Parce qu'en fait, t'as écrit une histoire. T'as composé une histoire, t'as tourné composé, et des fois t'es bloqué, tu commences, ça marche pas, ça monte pas, t'arrives pas à monter, et là tu dois refaire, tu dois peut-être fermer l'ordi et aller deux trois jours, tu reviens, ça débloque. Moi je trouve qu'il y a des cinéastes, il y a des écrivains, il y a des critiques qui sont en train de monter une mur entre la fiction. Et là, du commentaire. Moi, j'essaye de détruire le mur. Pourquoi détruire le mur ? Parce que moi, avec le documentaire, avec le mouvement de caméra sublime qu'on a aujourd'hui, avec les gimbals, avec les... Et là j'arriverai à faire un quelque chose avec mes personnages. Là, je suis, imagine, sous-sol, à Nazareth. Et là, il y a un site archéologique qui était découvert récemment. Et là, je suis sous terre, sous-sol, avec un personnage là-haut. Comment je vais faire ? J'ai envie de montrer les deux. Comment tu vas faire ? Je vais te montrer la scène. Là, je commence la caméra en bas, sous-sol. J'y montre tout ça, tous les pierres, tous le site archéologique qui était trouvé. Et après, je monte et je vois les personnages arrivent. Et c'est ça, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça, moi, j'ai détruit le mur entre la fiction et la documentaire. En fait, les manières de travailler... La manière de travailler, tu développes toi-même. Tu développes avec le temps. Après, à la fac, ils te donnent des clés. Parce que c'est facile à prendre un métier, mais c'est difficile à enseigner.
Les Israélites marchent dans l'eau, vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau, vers la noyade. Chant et contre-chant. Chant et contre-chant. Le peuple juif rejoint la fiction. Le peuple palestinien, le documentaire.
C'est une scène de génie. Je trouve que Jean-Luc Godard, déjà, c'est un personnage assez important dans l'histoire du cinéma en général. Il a un cinéma aussi qu'il a créé lui-même. Il a sa manière de dire les choses. Et là, il a résumé l'histoire de la Palestine dans 30 secondes. Ça veut dire qu'il avait deux photos. C'est pour ça qu'il dit champ contre champ. Il avait une photo où on voit les Palestiniens qui marchent dans l'eau. Et ils sont avec un état de panique, un état de détresse aussi, qui prennent les bateaux vers les Liban pour fuir les massacres qui a pris place en 48. Et on voit aussi les Israélites à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Israël en 48. On voit les Israélites, qu'il appelle Godard lui-même, les Israélites qui marchent vers la Palestine dans un bateau. C'est pour ça qu'il y a un champ contre champ. On voit les Palestiniens vers... C'est pour ça qu'il dit les Palestiniens vers le noyade, les Israélites vers la terre promise. Promise par qui? On ne sait pas. Promise.
Je suis né en 1981 en Jordanie. On l'a amené tout de suite en Palestine pour les papiers, etc. Mais après, on va tous les ans, l'été, pour passer le temps. Ma mère, elle avait ses parents. Mon père, pareil, il avait ses parents. On va passer le temps entre les deux villages de mon père et ma mère. Premier mémoire solide dans ma tête, c'est 1988, parce que c'était les premiers intifada. On arrive de Jordanie. Et le lendemain, il y avait une attaque sur la porte. Il y a des soldats qui arrivent chercher mon frère parce qu'il a jeté des pierres. Et là, on était protégés. Heureusement, il y avait ma mère et ma tante qui ont fait un barrage entre nous et les soldats parce qu'on était petits. Moi, j'avais 7 ans. Mon frère, elle avait 13 ans. On arrive de Jordanie, on n'a rien fait. En fait, les soldats ont attrapé mon frère. Il était très agressif. Hein. Il a presque cassé son bras. Il a pris sa main pour regarder s'il y a des saletés. Parce que normalement, les Palestiniens, comme tu jettes de bière, t'as des poussières sur les mains. Et comme ils ont brûlé beaucoup les pneus pour faire un fumet. Et c'est une manière de se protéger derrière le fumet. T'as les soldats à l'autre côté et t'as les enfants à l'autre côté. C'est les enfants, parce que c'est toujours les enfants qui jettent les pierres. Parce que, en fait, la scène d'occupation, t'as des soldats qui passent tout le temps dans les villages, et t'as le coffre-feu des fois. Et c'était ça, c'est pour ça qu'ils ont décidé de révolter les gens. Et révolter comment? On n'a pas des armes, hein, c'est des pierres, hein, jeter des pierres. Et c'est pour ça, c'est les premiers moments pour moi en Palestine. J'étais avant, mais je ne me rappelle pas. Hein. Comme j'avais 7 ans, 16 ans, 5 ans, etc. J'ai pas de mémoire, si tu veux. Mes premiers mémoires, c'est ça, agressif. On habitait à Jabal el-Webdeh, qui est là, devant toi. Et en face, on avait Jabal al-Kala. Et c'est comme, il s'appelle le Jabal al-Kala, ça veut dire quoi, le montagne de château. Et c'est vrai qu'on voyait les châteaux de chez nous, toujours. Et ça ressemble un peu d'ici à Morlaix. Nous, on habite dans les quartiers de châteaux. Et on voit l'autre colline, mais on n'a pas les châteaux sur l'autre colline. Mais on avait ça, et après, tu descends tout de suite au centre-ville. Tu as 5 minutes d'escalier, tu prends l'escalier. L'escalier historique d'Amman, et t'arrives au centre-ville. Et là, t'as tous les magasins traditionnels, etc., toutes les épices, le souk, ou quoi, voilà, d'Amman, c'est le centre-ville. Et t'as les doras aussi, de tous les plats traditionnels, toutes les épices, etc. La journée a pris beaucoup de détresse, de pays voisins. On part de la Palestine 48. Ça, c'est la première vague. Deuxième vague, c'est la Palestine 67. T'as les Palestiniens qui arrivent, s'installer en Jordanie, etc. Après, les Palestiniens, même les Jordaniens eux-mêmes, des SAPS, ils ont développé beaucoup la Jordanie, parce que faut imaginer, la Palestine, c'était pas vide en 48. Il y avait la poste, il y avait le chemin de fer, il y avait les ports, il y avait tout. Il y avait un État. Il y avait un État qui a tous les éléments. Et t'as les Palestiniens qui avaient les banques, déjà, t'avais des journaux, des magazines, des radios, tout ça, ça existait. Hein. T'as des musiciens qui viennent avec les instruments. Et par contre, la Jordanie, c'est pas assez développé. Et là, même les Jordaniens eux-mêmes, les historiens, tout le monde, ils disent que grâce aux Palestiniens, on a accès à plein de choses. Livres, banques, économie, etc. Mais à un moment donné aussi, c'est pas... La Jordanie a pris beaucoup. Ça veut dire que 48, un vague de 48, un vague de 67. Ça veut dire que le démographie monte d'un coup, comme ça aussi. C'est pas naturel, si tu veux. C'est pour ça... C'est l'immigration. Mes parents, c'est 75. Après la guerre de 67, c'est pour ça qu'ils ont gardé les papiers. On a le droit d'aller en Palestine. Et qu'ils ont donné le papier. Ça, c'est leur cadeau à moi aussi. J'ai les papiers et j'ai donné le même cadeau aux mes enfants. Ça, c'est important d'avoir de papier. Mais le reste de Palestiniens, ils n'ont pas de papier. Ça veut dire qu'ils ne sont que Jordaniens. Nous, on est Jordaniens. On était naturalisés parce que mon père, il était prof à l'école. Mais il a travaillé, il était fonctionnaire avec l'État. C'est pour ça qu'il a eu les nationalités. Mais on a gardé notre nationalité palestinienne. Si on parle de ma famille, mes grands-parents sont toujours restés en Palestine. Ça veut dire qu'il n'y a que mes parents qui sont quittés la Palestine. Et on avait cette histoire de visite tous l'été. Mes grands-parents sont morts en Palestine. Mon arrière, c'est un de mes arrière-grand-mères, il est vivant. Il est vivant dans un village qui s'appelle Azzaouye. Et c'est un village qui était aussi touché par le mur. Parce que le mur qui a traversé tous ces côtés-là ouest, entre 48 et 67. Voilà, si on peut imaginer comme ça, parce qu'il s'appelait la ligne verte. Et c'est pour ça, mon père... 75, et là, voilà, et chercher une ouverture pour la vie. Il n'y avait rien. Sauf que aussi, en fait, comme ils ont occupé le 67, toutes les terres de Palestine aujourd'hui, il n'y avait plus de travail. Soit tu travailles chez les Israéliens dans les bâtiments, je sais pas, mon père, il voulait pas faire ça, hein. Parce que les Palestiniens, ils adorent étudier. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on parle même à Gaza aujourd'hui. À Gaza, ils sont tous éduqués. Ils étaient tous à l'université. Ils ont fait des études. C'est pour ça que mon père, il a décidé de partir en Jordanie dans 75. Ça veut dire quoi, 8 ans après la guerre. Pour chercher un avenir. Et ma mère qui sort de la Palestine... d'un petit village qui arrive à Amman. Mais il a géré l'affaire. Hein. Ils ont géré l'affaire parce que c'est une... Il y a plein de petites histoires comme ça. Hein. C'est les gens qui étaient écrasés un peu de qu'est-ce qui s'est passé, de l'histoire à côté. Hein. En Palestine, t'as plusieurs femmes, t'as plusieurs références dans la famille. Dans les systèmes sociaux, t'as tes grands-parents, des sons, voilà, t'as les vrais grands-parents, et t'as les cousins de les grands-parents, qu'on appelle aussi grands-parents. Voilà. C'est ça que je trouve chouette en Palestine. Ça veut dire que dans ces générations-là, dans les générations de grands-parents, il y a ma grand-mère qui est vivante. C'est pas ma grand-mère directe, mais c'est la grand-mère de toute la famille, ma famille, à moi. Et on l'appelle grand-mère. Et récemment, en décembre 2024, je pars avec Rachel, Elias, May, mes enfants, et même mes beaux-parents, Jean-Yves et Janine. Et on arrive dans le village de Zaouye, le village de mon père. Je voulais aller le voir parce que c'est la référence de la famille. Moi, j'aime bien cette dame, j'adore. C'est une lumière, hein, cette dame. C'est une petite dame de, je sais pas, 30-40 kg, hein. Mais c'est une dame, c'est une résistance aussi. C'est une résistante parce qu'elle a résisté à plein de moments, 67, le mur, etc. Elle était là tout le temps. Elle était prise par un tractobel une fois parce qu'il a, il était accroché à un levier. Et le soldat a décidé, non, on va passer le mur par là. Et on va prendre la dame avec, avec le levier dans la tractobelle. Et c'est pour ça, il y a une photo d'elle, 30-40 kg à l'époque, dans un tractobelle massive, agressive, etc. C'est une femme toute douce, etc. Et on arrive chez elle, on arrive dans les villages, et je suis allé le voir, on a toqué sur la porte, elle n'était pas là. Et elle était dans les champs. Et là, on a pris la voiture jusqu'à les champs, on allait le voir. Et là, on a passé 2 heures avec elle. On était avec le fleur, avec les herbes naturelles. Elle t'explique, ça c'est des fleurs, ça c'est des thym, ça c'est des sauges, etc. 2 heures après, on voulait partir, et là, on a eu une attaque de soldats qui nous attaquaient. Et ça, c'était le premier rencontre. Ça, c'est pas mon histoire maintenant. Ça, c'est l'histoire de mon fils. Parce que c'était lui qui était d'or. Il voulait ramasser un brin d'olivier dans le coffre. Et le moment qu'il a fermé le coffre, là, l'histoire d'Olias commence.
J'étais venu voir une partie de ma famille vivant dans le village d'Al-Zawiyya, en Palestine. Nous étions avec une femme plus vieille que l'État d'Israël. Elle s'occupait de ses oliviers, de ses plantes de sauge, de menthe, au parfum extraordinaire de Palestine. Nous l'avons suivi dans un calme et une paix intense, même si les colonies en face nous regardaient au loin. Nous avons marché sur nos terres et nous sommes rentrés. J'ai apporté ce brin d'olivier quand je marchais sur ces terres pleines d'histoire, sur ces terres protégées par Oum Sadek, que l'on appelle tous grand-mère, sur ces terres où 1000 mains sont passées, sur ces terres meurtries qui attendent la liberté. J'ai vu un soldat qui était en train de courir en me mettant en joue avec son fusil d'assaut et en me criant dessus. Je suis parti en courant dans la voiture. 3 sont venus et ont mis en joue mon père en lui criant dessus et en lui disant de sortir de la voiture. Les 5 armes restaient vers nous. Jamais les canons n'ont vu le sol.
Il y a les sons qui arrivent d'abord, on sait. Il y a les sons qui arrivent d'abord, il y avait des fusils qui tapent sur le fenêtre. Qui tapent sur le fenêtre très fort. Et là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que... Je regarde, je voyais 5 fusils contre moi, quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? On était en train de... On était dans un rêve, avec ma grand-mère, dans sa terre, chez elle. On était chez nous. Chez nous. Et là, je regarde. Et là, j'ai eu pas peur, mais je regardais l'état d'Elias. Et... C'était ça. Il me dit, descends, j'ai descends. Et t'as les 5 contre moi, t'as les fusils. C'est une scène de Hollywood. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas d'armes. Voilà, j'ai bien habillé, j'ai une belle voiture. J'ai rien fait. Et on est chez nous, avec mes enfants, avec ma famille. Et là, 5 fusils contre toi. Papier, qu'est-ce que vous faites là? Mais je cherche les papiers. Et... Je sors mes papiers verts palestiniens, je le sors comme ça, il me dit, pose-le par terre. Comme je suis un animal, tu vois, c'est ça qui est dingue. Et moi, je parle en anglais, lui, il me parle en hébreu. Heureusement, je comprends un peu de mots, hein, parce que... Et là, il m'a dit de poser les papiers, j'ai posé le papier par terre, il m'a dit, va chercher un par un de les gens dans la voiture. Et là, j'avais 8 dans la voiture. J'ai demandé à tout le monde de descendre d'un coup. Là, il y avait une vague. Il y a May, ma fille, qui arrive, il y a Rachel, il y a Jean-Yves, il y a Janine, il y a ma grand-mère qui descend comme ça. Ils ont visé tout le monde, mais après, 8
8, comment tu vas viser 8 ? Et ça terminait l'histoire 10 minutes plus tard, mais en fait, il y a les enfants qui étaient dans un état de panique. Et comme le chef, leur chef, a entendu les enfants en train de pleurer, il fait plus, les malins. Mais c'est quoi cette scène de victoire ? Qu'est-ce qu'il a de victoire ? Rien de victoire. Le commandant avec ses soldats, là, le 5, ils ont fait une victoire. Leur journée était faite par une victoire. Contre une famille civile, c'est une famille aussi métisse, ça veut dire qu'il y a des Français avec nous. Et il y avait une dame de 93 ans. On a des fleurs dans les mains, on a bras de levier dans les mains, on a des kéfiyas sur la tête, eux ils ont des fusils. Quelle scène de victoire que vous avez réalisée aujourd'hui. Et après, c'est devenu très dur pour Elias. Il a fait un changement dans sa vie. Et il parle souvent de ça.
Chant et contre-chant.
On peut imaginer bien les deux commentaires de 2048, mais aujourd'hui, on est dans une phase de fiction. Comme on parle de l'archéologie biblique, ça c'est des fictions. Comme on parle de la narration biblique qu'on va appliquer sur une terre aujourd'hui, ça c'est des fictions. J'étais la dernière fois en décembre, fameux voyage en Palestine, décembre 2024. J'étais perdu un peu. Hein. Il n'y a plus de collines, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de... Voilà, on est en train de prendre la terre, tous les jours, on est en train de construire. Il y a les fameux les avant-postes aussi, aujourd'hui. Tu as des groupes de colons qui viennent de Manhattan, je ne sais pas quoi, qui ont des flingues. Et ils ont aussi des groupes, d'autres groupes, ils appellent d'autres groupes pour aller coloniser la terre. Ça veut dire qu'on va prendre la terre. Là, c'est une montagne, on va prendre la montagne. Et les Palestiniens, ils n'ont pas de... Voilà, ils n'ont pas de force aussi pour arrêter ça. Ils n'ont pas d'armes, rien. Et imagine le monde d'arrêt, là. Tu traverses le monde d'arrêt 2020, 2024, il n'y a plus de monde d'arrêt. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu vas avoir un crise cardiaque, parce que c'est... Bah, tu ne peux pas imaginer le monde d'arrêt très beau, naturel, etc. Le lendemain, il n'y a plus de monde d'arrêt, il y a des maisons avec des toits jaunes, là, ou des toits oranges. Parce que c'est ça, les colonies en Palestine, c'est des toits oranges. C'est ça qui est dur avec l'histoire de la Palestine. C'est pour ça qu'on n'a pas d'espoir. Regarde Gaza. Il n'y a pas que la Palestine. Ça retourne dans le monde. C'est pour ça, moi, je dis tout le temps, il ne faut pas être pro-palestinien. C'est nul. Il faut être pro-justice, pro-droit international. Il faut être contre apartheid. Qui va soutenir un apartheid ? Vous n'avez pas honte de soutenir un état d'apartheid ? Moi, la terminologie, c'est très important. Toutes ces terminologies étaient violées dans cette morceau de terre qui s'appelle la Palestine aujourd'hui.
Vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau, vers la noyade. Chant et contre-chant. La fiction, un documentaire.
Saddik haki la diab. لليالي عويت لك الأرض ملك اللي امتلك واللي في عرضه وانتو أكمد أدي نفسك نور أنا صوتك.
C'était Contre-Champ, rencontre avec Ayed Nabaa. Un immense merci à Ayed pour sa confiance. Merci également à Rachel Bizien et à la Barak Mehare. Musique, Shadi Zaktan.
بجفل صوت الطلق جرب قلي وانطلق قلي في غزة انحرق قلبي وترك لي النار